Bonjour, bienvenue à Escal 1718 avec Fulgence Blanc au micro, Nicolas la technique. Voilà, cette journée froide, un peu froide, oui, bon. Ça va quand même, mais quand je me retrouve en studio, je sens un peu la chaleur. Ouais, comment vas-tu Nicolas, toi?
Ça va bien.
Oui.
Ça va bien.
Merci. Et puis, on va démarrer cette émission avec des différents sujets, parce que j'ai pas de chroniqueur, j'ai pas d'invité. Mais en deuxième partie d'émission, on va recevoir Mario Girard qui va nous parler, qui est auteur du livre Aznavour et le Québec. C'est tout frais, tout chaud, tout nouveau. C'est sorti, le mois dernier, là, c'est déjà en librairie. Alors, si vous l'avez pas, allez, n'attendez pas à ce que je vous le dise avant de courir à la librairie, quoi. On va en musique tout de suite avec Etana Wayam. Et puis après, je vous aborde les différents sujets. Silence getting louder. est un who I am, qui je suis, qui suis-je, qui je suis. Bon, mais voir, bon, vous voyez marcher comme ça, c'est parce que bon, ben, on vient dandiner ou me balancer comme ça, c'est que je me sens bien, quoi. C'est une manière de montrer, savoir qui je suis, comment je me sens en fonction de mes. Voilà. On va, je vais vous parler tout de suite là d'une marche qui s'est terminée le samedi passé. Ouais, le samedi passé, c'est l'objectif pour la protection des forêts qui a pris fin. C'était un mois et demi de marche, hein, un mois et demi de marche à travers le Québec. Donc l'objectif de cette marche était de demander au gouvernement Legault d'aller de l'avant avec 83 projets d'air protégé. Voilà, 83 projets d'air protégé. Bon, les marcheurs ont parcouru une partie du Québec pendant un mois et demi, bon, pour réclamer la protection des forêts du sud de la province. Ils sont arrivés dans la vieille capitale dans l'objectif de rencontrer le ministre de l'Environnement qui est prévu pour aujourd'hui, mardi. Bon, avec le grand discours du ministre lui-même, je ne sais pas si son ministre de l'Environnement va avoir le temps de les recevoir. J'espère. S'il les reçoit, que j'ai des échos, je vous en parlerai dans le courant de la semaine ou bien la semaine prochaine, je reviendrai là-dessus. Donc, ça a pris fin le samedi après-midi, voilà, au parc de la Pointe aux Lièvres, avec la tenue des rassemblements pour demander au gouvernement Legault d'aller de l'avant avec ses 83 projets, comme je le disais. Ouais, c'est parle de d'exploitation forestière, à la suite d'un veto d'ailleurs du ministre des Forêts, des Faunes et des Parcs. Bon, tout ça là, moi, j'ai dit le gros discours là. Je suis fatigué avec ça. Je veux les actions. Je reviens. Quand je parle de ces sujets là, je deviens. Je vais essayer d'arrêter d'être émotif. Je vais aller droit au but maintenant là. J'ai dit les gros discours, les gros messieurs, les messieurs en cravate là, avec les gros discours. On est fatigué, nous, la population civile. On veut des actions concrètes. Point. C'est tout. Donc. C'était une manière de retenir l'attention bien de Québec, bien, du Parlement, du gouvernement, pour le dire. Il va rencontrer, au moins le ministre va rencontrer, au moins un des organisateurs de la mobilisation, et puis une femme autochtone, et puis le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. J'espère qu'il va le faire, qu'il aura le temps de le faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit ? Patrick Gravel, qui est l'un des instigateurs de la grande marche, est botaniste d'ailleurs, il est botaniste de profession. C'est le début d'une conversation. L'effort de nos chambres, de nos jambes, de nos cœurs et aussi toute la concentration qu'on a récoltée avec les scientifiques, les citoyens, les groupes environnementaux, ça fait tellement l'unanimité que je pense que c'est le gros bon sens qu'on en parle. J'aime bien cet article de Frédéric Lacour de la presse d'ailleurs, je me suis dit, il faut que j'en parle. Ouais, c'est parce que c'est des choses comme ça, faut pas. Et lui et ce monsieur et 9 autres personnes d'ailleurs, dont il y avait un marcheur de 10 ans et un autre de 80 ans. Ouais, c'est les deux extrêmes, quoi. 10 ans, 80 ans, qui ont débuté leur marche le 6 septembre dans la municipalité de Ripon en Outaouais. Et puis les citoyens se sont joints au fur et à mesure à eux pendant un moment durant leur périple. Et parfois même, il y avait une centaine de personnes qui marchaient avec eux. Oui, ils n'étaient pas seuls. Ceux qui ont fait le long cours ont marché 565 kilomètres. 565 kilomètres. Nicolas, ne me demande pas ça. Bon. Et il y a des gens là-dedans aussi qui avaient... Il y avait des feux de forêt un peu partout. Il y avait des gens qui avaient leur maison qui a brûlé en chemin. Et puis, ouais, on leur a dit que leur maison brûlait, mais ils ne sont pas retournés. Ils ont continué la marche. Ça, il faut le faire. Hein. Ça, il faut le faire. Ils ont décidé de continuer jusqu'au bout où personne n'a abandonné malgré les épreuves et puis les blessures. Et puis, il y a d'autres groupes de marcheurs sont partis de différentes régions et des participants ont navigué en canot, notamment sur le fleuve, pour converger vers Québec. Intéressant. Si je l'avais su auparavant, peut-être que j'allais joindre durant une fin de semaine. Voilà, ça c'est ma part. C'est un de mes sujets de prédilection de toutes les façons. C'est ce qui fait que j'en parle tout le temps, Nicolas. Donc des marches locales aussi ont aussi eu lieu. Des communautés autochtones ont également pris part à la mobilisation. Voilà. Alors j'espère que ça va tomber dans de bonnes oreilles. Et puis, il faut le dire, hein, sincèrement, qu'est-ce qu'il dit, M. Gravel ? On ne demande pas la Lune. On demande seulement 1,5% du territoire, a-t-il soutenu. C'est vrai, c'est ce qui fait les gros discours, on n'en veut plus. Il dit, il veut faire valoir au gouvernement que la nature a joué un rôle de thérapeute depuis le début de la pandémie, bien sûr. On sortait tout le temps de la, du béton de Montréal pour aller marcher un peu en forêt, aller en... Voilà, c'est pour nous les citoyens, lambda, monsieur, madame, tout le monde, alors, on se dit, on ne peut même pas prendre de décision. Tout ce qu'on fait de notre côté, eux, les grands décideurs, je parle de ça parce que mon prochain sujet, après la pièce musicale, là, je vais parler de la Chine qui vient d'augmenter sa production de charbon. C'est le plus grand pollueur mondial et puis le premier pollueur de charbon au monde. Alors, quand il y a des choses comme ça, je tombe sur des sujets comme ça. Ça, l'autre, là, l'économie, c'est l'AFP, hein, c'est un article de l'AFP, je vais vous en parler un peu. On fait la petite pause musicale. Avec qui un duo, vous Innova et Monéa, Without You.
Leave me happy.
Ah oui, vous innovez. Monéa, without you. Pour terminer mon sujet concernant la marche pour la protection des forêts qui a pris fin après un mois et demi samedi passé, d'ailleurs, les demandes qu'ils ont, qui contiennent d'ailleurs la création d'un observatoire indépendant des forêts, instauration d'une loi pour protéger les boisés urbains et périurbains, ainsi que des mesures immédiates pour la protection de la biodiversité. Voilà. Et puis le thème, c'était quoi ? Toi, mon espèce rare. Voilà. Il y a des jeunes d'ailleurs qui ont... Les marchands ont rencontré des jeunes qui ont créé des dessins, écrit des messages sur l'importance pour eux, de la biodiversité et des espèces rares. Il y a un enfant doit remettre aussi, parmi ces enfants-là, qui ont rencontré les marcheurs, ses créations au ministre lors de la rencontre. Bravo à ces enfants-là. Voilà, très jeunes, déjà engagés. Voilà, moi, il y a quelque chose qui me fait un peu mal, les gens. Quand je parle de monsieur en cravate, les voyous en cravate, là, je reviens parce que là, selon l'AFP, l'Agence France Presse, l'économie. Voilà, la Chine qui augmente de 6% sa production de charbon. Vous savez, c'est le plus grand producteur de charbon et c'est le premier pollueur mondial. Voilà. Donc, et pourtant, bientôt, c'est la COP. Ouais. Bientôt, là. La réunion des grands, là. Des voyous en cravate, là. Oui, je m'excuse, mais c'est comme ça. C'est la COP 26, comme ils appellent, la COP 26. À Glasgow, en Écosse. Voilà, c'est bientôt, là. C'est ceux-là qui vont aller se mettre là-bas, dans une salle, pour nous parler, pour s'adresser à nous. Qui vont déclarer, nous voulons réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 de 15%, de 50%, de 250%. En même temps, voilà, je me calme. Bon, je reviens là-dessus. Voilà, de 6% sa production de charbon par rapport à celle de l'année dernière. Donc, ça veut dire quoi ? 222 millions de tonnes de plus. Donc, l'empire du milieu, là, la Chine, à la fois le premier producteur mondial de charbon, mais aussi le premier pollueur mondial. Il pollue même plus que les États-Unis. Ouais. Il pollue même plus que toute l'Europe, toute l'Union européenne, toute l'Europe réunie. Allez-y comprendre quelque chose, ce que ça fait, quoi. Oui, vous allez me dire, ils sont plus nombreux. Oui, ils sont plus nombreux, mais quoi. On peut, dans ce cas-là, on ne va pas à ces genres de réunions-là. On ne va pas là-bas pour faire des promesses, et puis quand on sort de là, on dit, ouais, on n'avait rien compris. Là. L'économie avant le climat, c'est comme ça que ça marche. Mais si ces gens ne font pas un effort pour nous permettre, nous, en tant que population civile, de leur faire confiance, à un moment donné, le peuple dira, ça suffit, arrêtez de nous raconter des histoires. On va prendre les initiatives nous-mêmes, je pense bien. Ça va arriver, s'ils ne font pas attention. Je parle des politiques, les messieurs en cravate. Voilà. Et puis, selon ces autorités chinoises, 153 mines sont autorisées depuis un mois à augmenter leur capacité de production de charbon. Ouais. L'an dernier, hein, c'était 1,84 milliard de tonnes. Et il s'agit maintenant d'une hausse de 5,7, à peu près 7%. De capacité en charbon. Rien que pour ce trimestre, leur production va croître de 50 millions de tonnes. En 3 mois. 50 millions de tonnes de croissance. Ouais, après ils déclarent, bon, le pays a atteint actuellement un record de production quotidienne. Pourquoi ils le font ? Parce qu'ils ont, à cause de la pandémie, ils ont des coupures incessantes d'électricité. Donc il faut augmenter la production pour pouvoir fait face au, comment dirais-je, permettre à l'économie de rebondir. Mais est-ce que c'est un argument qui arrive à nous convaincre ? Non, en tant que population civile, je ne pense pas. Non. Voilà. On sait que ce pays-là est très, très, très dépendant du charbon. Voilà. Et parce que quand son économie est menacée, il n'est plus question de penser à la COP 26, hein, à la COP 25, à la COP 15, à la COP... Et la semaine passée, d'ailleurs, effectivement, sur une semaine, il y avait COP 15 ou bien je ne sais quoi, là, sur la biodiversité chez eux en Chine. Ils ont montré toutes les beautés de la région, tout ça. Voilà. Après, c'est pour polluer avec le charbon. Voilà, je ne comprends pas. C'est comme ça. Donc, le gouvernement a fait une déréglementation partielle des prix de l'électricité vendue aux industriels. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez ? On n'y peut rien. Ça va continuer comme ça avec eux. Ouais. Mais je ne sais pas ce que je peux dire, mais c'est pour dire Ah, c'est monsieur en cravate, c'est voyou en cravate. Oui, arrêtez de nous prendre pour des enfants. Voilà. On revient chez nous ici à Montréal. La mairesse qui dit d'ici l'année prochaine, il y a des terrasses chauffées partout sur l'île. C'est ce qu'elle souhaite. Hein. Pour ceux qui le veulent, des terrasses chauffées. Soit des magasins, la devanture des magasins, soit la devanture des restaurants, soit la devanture des bars. Voilà, il y a trois quartiers qui sont en train de. Qui vont faire le test cette année, cet hiver. Ah, c'est des privilégiés, hein. Ville-Marie, le quartier latin entre Maisonneuve et Ontario, et la rue Sainte-Catherine devant le complexe. Des Jardins. Ouais, complexe des Jardins, oui. Puis le plateau Mont-Royal. Merci à celui de la presse, Henri Ouellet-Vézina, qui a sorti cet article-là, d'ailleurs. Très intéressant, je me suis dit. D'ailleurs, à l'époque, je me rappelle bien, les années passées avant la pandémie, il y avait des terrasses qui étaient chauffées par les propriétaires de. Certaines terrasses, pas toutes les terrasses. Bon, mais ils vont tenir compte de beaucoup de choses, il faut le dire. Il y a les terrasses privées, il y a les terrasses même publiques. Donc, elle va essayer de voir, essayer les deux en même temps. Et c'est le lundi qu'elle a parlé de ça, ça veut dire hier. Hein. Ça, c'est, si tout fonctionne bien, son souhait serait que dès l'automne prochain, hein, en fonction de ce qui va ressortir d'ailleurs, du niveau de déneigement, du chauffage, comment ça va se passer avec le déneigement, qu'on puisse agrandir, élargir, étendre cela à tous les arrondissements qui vont le vouloir. Hein. Parce que oui, elle peut bien décider, bon, c'est la mairesse de la ville de Montréal, c'est. Mais les arrondissements ont dit non, on n'en a pas besoin, ça consomme trop d'énergie. Donc il faut tenir compte des générateurs à cause de la quantité de gaz à effet de serre qui va se propulser dans l'air d'ailleurs. Donc il faut pouvoir adapter la réalité à la situation climatique, quoi. En gros, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il faut faire un peu comme à Stockholm, c'est pareil. À Stockholm, c'est déjà fait. Les terrasses sont chauffées. Oui. Alors, il y a eu une rencontre. Il faut assumer sa nordicité. C'est une bonne chose. Il faut faire chauffer les terrasses comme à Stockholm. C'est un pays du Nord. Le Canada, c'est un pays du Nord aussi. Comme le Montréal, c'est l'une des villes les plus festives d'été. Elle aimerait bien que aussi Montréal soit en sorte, fait en sorte que la ville soit aussi l'une des villes les plus festives au monde en hiver. Bon, on espère que ça va se réaliser. Mais c'est les trois projets, les trois quartiers bien choisis là pour faire le test cette année qui vont en profiter. Mais il y a certains propriétaires de bars, de restaurants et de magasins d'ailleurs, de toute façon, qui le font de leurs propres moyens. Et ils vont avoir le soutien de la ville, pourquoi pas. Tant mieux pour eux. Je dis merci. On va en musique. On termine la première partie de l'émission. Avant de recevoir notre invité, avec un garçon qui vient de nous sortir une nouvelle chanson toute chaude, toute fraîche, aujourd'hui même, Bruce Melody, Savoie, avec la complicité de Calligram Jones.
Teddy, no. Kani guoku, no. Rekona jeshi, Pepa chasing, money making. Cali taking, overtaking, Cali racing, Juco Fao, Nipe Malkia, Stakia Shao, Bruce Melody, that'll be my brother, but I show you how we flip it, Kapado, Uja, discover, Juna, Letraka, Ibada, Inya, Waleba, Korada, to see Bonga, Jobara, Kanimona, Kono, Wababa, I'm on a roll, Nime, Chil, Kamako, Bari, this is when the Nime, Kuwa, Niki, Flo, Saidi, Niko, Sawa, Sawa, Si, Wana, Gawa, Gawa, Omundu, Strong, Rumbu, Pia, Neya, Bawa, so here we go, a Jini, Jo, Pupo, Shwari, Mambo, Shwari, so here we go, a Jini, Jo,
Ligan Jones, ça va, ça va, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on reçoit Mario Girard qui va nous parler de son livre Aznavour et le Québec. Il se voyait déjà. À tout de suite, après la petite pause, restez à l'écoute.
Cal 17-18 avec Fulgence Blas.
Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses et le destin pressé. Un instant, prends la pause. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé. La coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié. Rien oublié. Marié, moi, allons donc. Je n'en ai nulle envie. J'aime ma liberté. Et puis, de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors ce mariage entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Non, je n'ai rien oublié. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et mon passé revient du fond de sa défaite. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. À l'âge où je portais que mon cœur pour toute arme, ton père ayant pour toi bien d'autres ambitions, a brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi. Sur sa situation, j'ai voulu te revoir, mais tu étais cloîtré. Je t'ai écrit 100 fois, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié.
Cher Aznavour, non, je n'ai rien oublié. Voilà, je vais dire merci d'abord à Mario Girard d'avoir fait ce beau bouquin, ce beau livre. Oui, c'est devenu mon livre de poche depuis que je l'ai reçu. Il n'y a pas seulement que des lignes de plumes, il y a aussi de belles photos là-dedans. En novembre 1948, un jeune artiste français de 24 ans débarque à Montréal. Il a pour nom Charles Aznavour. Poussé par Edith Piaf, il y vient avec son fidèle compagnon Pierre Roche, dans l'espoir de remplir un engagement parmi d'autres. Alors qu'il est boudé dans son pays d'origine, c'est-à-dire la France, un véritable coup de foudre se produit entre lui et les spectateurs québécois. Donc cette improbable histoire d'amour est celle que raconte le journaliste Mario Rizal. Girard. Bonjour Mario Girard.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va
bien.
Ça va?
Oui, ça va bien, merci. Je suis très content de vous avoir pour parler de ce nouveau livre qui sent encore le papier, le bois, même il est tout frais, tout neuf là.
C'est vrai.
Ouais. Oui, alors Mario a débuté sa carrière, débuté dans le domaine du marketing des arts, il a amorcé une carrière à Radio-Canada, devenu chroniqueur culturel, puis animateur. En 2004, il rentre à la presse comme reporter, et 3 ans plus tard, il est nommé directeur des informations générales. Il faut que je fasse sa bio rapidement, ça c'est la bio courte de Mario que je fais là. Puis directeur principal d'information après cette année au sein de l'équipe, ainsi de suite. Et puis à l'occasion du 50e anniversaire de la pièce Les Belles Sœurs de Michel Tremblay, il publie Les Belles Sœurs, l'œuvre qui a tout changé aux éditions de la presse, bien sûr. Et puis en 2020, la biographie de René Claude, Donne-moi le temps, toujours aux éditions de la presse. Et maintenant, là, en 2021, il se voyait déjà Aznavour et le Québec. Comment l'idée vous est venue de sortir un livre comme ça sur l'amour entre Aznavour et le Québec, Mario?
Bon, en fait, je pense que c'est venu d'une frustration de lire les biographies françaises,
oui,
d'Aznavour, au sujet d'Aznavour, et de voir qu'on consacrait très peu de pages à cette période au Québec et à cette relation qu'il a eue avec les Québécois, avec le Québec.
Oui.
Et je me suis dit, c'est pas possible en fait que tout ça tienne sur 2 ou 3 pages. Alors j'ai commencé à lire, j'ai fouillé les vieux journaux.
Oui.
Je suis allé voir les du côté de la radio, en fait, les vieilles entrevues, la télévision aussi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccommodé tout ça, j'ai relié tout ça. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais une formidable histoire entre les mains.
Oui.
Et alors, c'est ce que j'ai voulu raconter, donc de son arrivée, comme vous le disiez, en 1948 à Montréal.
Oui.
Et là, il va passer 2 années importantes, formatrices de sa jeunesse.
Oui.
2 années qui vont lui donner, je pense, toute la confiance dont il avait besoin pour ensuite connaître la consécration qui va venir au milieu là, des années 60, 50 plutôt, au début des années 60 en France.
Oui.
Mais, et c'est pour ça, en fait, je pense que le Québec a tellement été important pour lui parce qu'il savait que c'est ici que ça s'est joué d'abord pour lui. Et puis, bon, l'histoire, elle est quand même... extraordinaire. Là. Son arrivée d'abord à New York pour aller retrouver Piaf, qui veut se débarrasser de Charles Aznavour et de Pierre Roche parce qu'elle a envie de vivre son histoire d'amour avec Marcel Cerdan. Donc, elle va les envoyer littéralement à Montréal. Ce n'était pas prévu du tout qu'ils viennent à Montréal.
Ah bon?
Donc, ils viennent, du tout. Mm-hmm. Alors, ils arrivent à Montréal en novembre 1948, c'est le début de l'hiver. Et puis, ils vont avoir ce premier engagement au quartier latin qui était situé sur la rue de la Montagne d'abord. Mm-hmm. Et puis, quelques semaines plus tard, Jacques Normand, qui est l'âme dirigeante du Faisan Doré, va venir les voler, si on veut, et les amener au Faisan Doré, qui était sur Saint-Laurent. Et là, ils vont tenir l'affiche pendant 2 ans à raison de 2 ou 3 spectacles même par soir. C'est quand même incroyable.
Oui. Et puis d'ailleurs, durant l'été, quand le Faisan Doré faisait relâche, il n'était pas question pour lui de rester inactif. Hein? Donc, il allait voir le patron de chez Roger pour se produire.
Ah non, mais c'était un hyperactif, hein, Aznavour. Autant Pierre Roche, donc son acolyte, son grand ami, était un peu cigale. Alors lui, bon, il l'a écrit, il faisait la fête et ça a été des années assez olé-olé.
Oui.
Mais néanmoins, le matin, lui, il se levait. Il allait sur le petit piano qui était donc au Faisan Doré, et puis il allait pianoter, et il écrivait, et il savait qu'un jour ça allait marcher pour lui.
Wow! Et ça marchait.
On vient d'entendre, donc, à mon avis, un de ses chefs-d'œuvre. J'écoutais la chanson en vous attendant, et puis je me disais, mais quand même, la poésie, la musique,
oui,
les arrangements, la construction, la production, tout est là.
C'est
un perfectionniste. Mmh. Et alors, il y a un mot pour moi qui a été révélateur, en fait, de la personnalité d'Aznavour. C'est quand il va donc à l'émission de Fernand Seguin, qui s'appelait Le Sel de la semaine.
Oui.
Donc, les plus vieux qui nous écoutent s'en souviennent. Mmh. C'était dans les années 60 à Radio-Canada. Donc, il va à cette émission. Et Fernand Seguin lui demande, durant l'entrevue, de compléter. Alors, il dit, Charles Aznavour est un, et Aznavour répond, un ambitieux.
C'est lui qui termine la phrase.
Exactement.
Oui.
Un ambitieux dans le bon sens du terme.
Oui.
Et, il s'en cache pas. Il veut réussir.
Oui.
Et ça a été très, très difficile pour lui. Ça, pour moi, ça a été sans doute la plus grande découverte de cette quête. Je savais pas, en fait, qu'il avait autant souffert et à quel point on avait été aussi méchant avec lui. J'ai lu des atrocités. Les journalistes français, avant qu'ils ne viennent, je parle avant 48, là, parce qu'il avait quand même tenté sa chance en France. Donc, on a écrit des trucs ignobles à son sujet.
Oui.
Et malgré tout, il s'accroche. Et il sait donc qu'un jour ça va marcher, et ça a marché.
Merci beaucoup, Mario, de nous faire découvrir ce grand monsieur. C'est vrai, ce côté, c'est, comme vous l'avez dit, c'est à cause de la frustration que vous avez écrit ce livre. Parce que, effectivement, quand vous parlez de biographie de Charles Aznavour en France, ils ne vont pas en profondeur. Le lien qu'il y avait entre lui et le Québec, même si on peut le dire, là, le début de sa grande carrière, c'est ici, 2 ans durant. Les belles rencontres qu'il a faites.
Ah oui, elles ont duré.
Oui.
Les amitiés ont duré jusqu'à la mort.
Oui.
C'était comme ça avec lui. C'était un être loyal, c'était un être fidèle. Alors, j'ai parlé de Jacques Normand, on peut parler de Félix Leclerc, on peut évoquer Monique Lérac. Ensuite, bon, on s'imagine que cet homme qui a une apparence sage, donc va vers des gens sages, mais non, il va vers Robert Charlebois, qui était un grand, grand ami.
Oui.
Il va vers Diane Dufresne, pour qui il avait une admiration absolument sans borne.
Oui,
alors,
oui.
Donc, et puis, bon, plus récemment, Linda Lemay, il a été un mentor de Linda Lemay. Quand il l'a vu, il l'a entendu pour la première fois, c'était en Suisse. D'ailleurs, c'était lors d'un spectacle hommage à Charles Trenet.
Oui. Et,
Linda Lemay raconte qu'elle arrive sur scène pour faire deux chansons de Trenet et une de ses chansons, en l'occurrence La Visite, et qui elle ne voit pas dans la première rangée, Charles Trenet et Charles Aznavour. Donc, on peut imaginer que, bon, elle a ressenti quelque chose. Et ça a été un coup de foudre. Et à l'entracte, Aznavour a demandé à la rencontrer. Et il a été un ange protecteur pour elle. Alors oui, il avait donc cette relation avec les Québécois. Son fils, Michel, m'a dit qu'il se sentait bien au Québec. Il se sentait bien dans les rues de Montréal. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup rire, qui aimait s'amuser, qui ne se prenait pas au sérieux. Mmh. Et au Québec, il pouvait être comme ça.
Oui, 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 ça pouvait pas. Bon, en France, là, bon, quand il est devenu connu, il est devenu la grande star en France, tu pouvais pas te promener comme ça. Non, il pouvait pas se promener comme ça. Oui, des grandes relations, des grandes amitiés qu'il a tissées, Denise Filiatro, Dominique Michel, et puis son grand ami Robert Charlebois aussi. Merci, Mario, vraiment, vous nous faites découvrir la vie de ce. Ça, jusqu'à même dans. L'intimité absolue. On va écouter une autre pièce de lui. Une de ses pièces, moi j'appelle ça, c'est une des classiques, La Bohème.
Ah ben oui, ben là, et dans le cas d'Aznavour, on a l'embarras du choix hein, quand on parle de classique.
C'est ça. À tout à l'heure, Mario.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours,
Charles Aznavour, La Bohème. Quelle chanson. Ouais.
Oui, vraiment, et il faut préciser dans ce cas-ci, donc, il a fait la musique, c'est un texte de Jacques Plante.
Oui.
Pour la plupart de ses chansons, donc, Aznavour a composé la musique et a écrit les paroles.
Oui.
Quelquefois, il est allé vers d'autres paroliers, c'est le cas de La Bohème.
Oui.
Mais là, on a l'impression que cette chanson, elle est cousue main pour Aznavour. Et ça raconte, en fait, un petit peu ce qu'il a vécu avant de venir, tout juste avant de venir au Québec. Donc, Pierre Roche, son grand ami Pierre Roche, avait un appartement à Montmartre.
Oui.
Et puis, donc, il se retrouvait là avec des amis, des copains, des copines, et puis on faisait la fête, et puis on vivait avec deux, trois bouteilles de vin, puis un bout de pain. Mm-hmm. C'était à peu près ça. Donc, quand il a vu ce texte de Jacques Plante, il s'est dit, ben, c'est aussi mon histoire, mais c'est devenu une chanson phare pour Aznavour. Je parle de Pierre Roche, il faut en parler, parce que Pierre Roche, donc, il vient avec lui en 48.
Oui.
Et alors, en 50, Aznavour repart, mais Pierre Roche reste au Québec. Il va demeurer ici jusqu'à sa mort. Il va épouser Aglaé, qui était une chanteuse québécoise qui a connu une grande carrière en France aussi.
Oui.
Et donc, Pierre Roche a vécu au Québec et bon, les gens de Québec, de la ville de Québec, se souviennent de lui parce qu'il a été longtemps pianiste de bar et il chantait donc un répertoire assez varié, assez riche. Donc, Pierre Roche, un personnage très, très important dans la vie d'Aznavour.
Oui, oui, oui. Et puis, et lors de son passage, ça, j'aime ce passage-là, lors de son passage aux Francofolies de Montréal en 95, c'est, voilà, une chose frappe. Caroline Jamais, alors vice-présidente des communications pour l'équipe Spectra. À la fin de son spectacle, une cinquantaine d'admirateurs l'attendaient d'ailleurs. Il venait de chanter pendant 2 heures et il était fatigué. Il avait déjà plus de 70 ans. Je suis allé le voir pour lui dire qu'on pouvait le ramener à son hôtel ou, s'il le désirait, rencontrer ses admirateurs. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Mais madame, il le faut. Ma vie artistique, je le dois à ces gens-là. »
Ben voilà, ben ça résume tout le personnage, toute la l'amour qu'il avait du public, le respect qu'il oui. avait. Pour son public, pour les spectateurs qui venaient l'entendre chanter.
Oui.
Alors, Caroline Jamais me disait, c'était une grande leçon pour elle, parce qu'elle s'occupait des artistes qui étaient aux Francofolies et aussi au Festival de jazz. Donc, elle en a vu
oui.
des gens.
Oui.
Elle en a vu des égaux, des stars, des gens agréables et désagréables. Et ça, vraiment, ça a été une grande leçon parce qu'elle était certaine, en fait, qu'il allait dire « Ah oui, je suis fatigué, je vais rentrer à mon hôtel. » Et non. Et il est arrivé devant le public, devant les gens, en fait, qui l'attendaient, qui faisaient la queue.
Oui.
Il a dit « Écoutez, ça va être long parce que je vais prendre le temps avec chacun d'entre vous. » C'est formidable.
C'est formidable, il faut le dire.
Un artiste de cette trempe qui prend le temps, après un spectacle de 2 heures,
oui.
pour rencontrer des dizaines de fans, d'admirateurs. C'est très, très beau.
Oui, oui, oui. Alors, mais de toute façon, comme... Il était, moi, je ne sais pas, ces messieurs, je ne connais pas toute sa palette musicale, mais ce que je connais de lui, j'ai toujours apprécié, j'ai toujours adoré. Et là, il avait rencontré un jeune homme dans un train. Celui qui avait chanté dans les plus prestigieux théâtres du monde savait demeurer humble à un rapport disproportionné entre la star, oui, et ce qu'il était. Un fan béat d'admiration. Il préférait celui qui était simple et franc. Le chanteur Gip Jim Corcoran a eu, sans le savoir...
C'est extraordinaire.
Extraordinaire. Alors, je vous laisse expliquer ça, Mario.
Alors, il va en tournée.
Oui.
Parce qu'il faisait de grandes tournées hein, au Québec et à l'extérieur du Québec. Ça allait jusqu'en Ontario, au Nouveau-Brunswick.
Mm-hmm.
Et donc là, la tournée l'amène au Nouveau-Brunswick. Et lui, plutôt que de rentrer en avion avec l'équipe technique et avec les musiciens, il décide de prendre tout seul le train.
Le train.
Et là, il est dans le train, et là, il entend un jeune homme qui gratte sa guitare dans une chambrette. Et là, il s'arrête, et il se met à causer avec lui, et là, il lui dit « Oui, vous êtes musicien, tout ça. » Et en fait, c'était Jim Corcoran.
Oui.
Et Jim Corcoran, à l'époque, était professeur. Et donc, dans une école secondaire, dans un high school. Et là, il revenait chez lui, à Sherbrooke,
oui.
Pour la période des fêtes. Et donc, il revenait chez sa mère.
Mmh.
Et alors, ils se mettent à discuter. Et là, Jim Corcoran ne connaît pas du tout Aznavour.
Il ne connaît pas du tout. Quand j'ai cette partie-là, Mario, je vous dis, ça m'a fait tellement sourire. Ça m'a fait sourire quand j'ai lu ça. Allez-y.
Et là, Aznavour, il est très connu. On est dans les années 70. Là,
oui.
Megastar. Mmh. Donc, Jim Corcoran, il ne sait pas du tout à qui il a affaire.
Mmh.
Mais ils vont discuter tous les deux de musique. Oui. Et là, quand Jim Corcoran demande à Aznavour, mais vous, vous faites quoi dans la vie? Ben, il dit, je suis chanteur, et d'ailleurs, je m'avais chanté là à Montréal, et ensuite à New York. Et là, Jim Corcoran se dit, mais c'est pas possible. J'ai en face de moi un monsieur avec un veston, avec une veste et une cravate. C'est pas possible que ce soit un chanteur, une vedette qui va chanter à New York. Et quand Jim Corcoran est arrivé chez lui, il dit à sa mère qui d'ailleurs était une fan de plusieurs chanteurs et collectionnait les autographes.
Oui.
Donc il dit, j'ai rencontré quelqu'un sur le train. Attends, je suis pas sûr de son nom. Je pense que c'est Charles Aznavour. Et sa mère dit, arrête, t'es con, t'es fou, c'est pas vrai. Elle était dans tous ses états.
C'est vrai. J'ai adoré ça quand je suis tombé. J'étais arrivé à cette salle, à la page 207 du livre. C'est la manière d'Aznavour. Oh, la manière Aznavour. Ah, mais c'est pas vrai. Mario, pour les 30 dernières secondes qui nous restent là, qu'est-ce que vous avez à dire pour ceux qui n'ont pas encore ce livre-là, qui nous écoutent, qui aimeraient? Je dis merci du fond du cœur de nous avoir permis, nous qui allons vous lire là, ce côté caché de cet amour entre Aznavour et le Québec. Et les Québécois?
D'abord, merci pour ces bons mots. Mais si je pouvais convaincre les gens d'aller vers cette histoire, vers cet artiste fabuleux, je dirais qu'il n'y a que de l'amour là-dedans. Et on en a besoin par les temps qui courent.
Oui.
Je reçois depuis que le livre est lancé, depuis quelques semaines, beaucoup de beaux commentaires. Et c'est ce que les gens ne s'attendaient pas à ça. Et ça pour moi, c'est... C'est un beau compliment parce que les gens disent oui, Aznavour, on sait tout de lui. Et les gens me disent, on découvre plein de choses.
Oui.
Et on découvre une époque en même temps. Et on découvre donc une très belle relation d'amour, une belle relation d'amitié.
Oui.
Alors, tant mieux. Alors, il y a le temps des fêtes qui s'en vient, il y a Noël qui s'en vient. Donc,
on peut faire des cadeaux avec.
Exactement, parce que j'ai déjà fait l'expérience dans une soirée. Il y a des gens, des jeunes de 30 ans, des gens de 50 ans, des gens de 70 ans. Tu mets une chanson d'Aznavour et tout le monde la fredonne, tout le monde la chante.
Oui.
C'est rassembleur.
Oui.
Donc voilà, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, c'est peut-être l'occasion.
Merci beaucoup, Mario Girard, auteur de « Il se voit déjà, Aznavour et le Québec », les éditions La Presse. Merci beaucoup, Mario.
C'était un bonheur, un plaisir. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon.
Ouais, Charles Aznavour, amenez-moi. J'ai dit merci à Mario Girard, auteur de ce livre, il se voit déjà Aznavour et le Québec. Merci à toi, Nicolas, la technique. Et puis, vous, auditeurs et auditrices, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Et puis, pour les lève-tôt et les couche-tard, l'émission est rediffusée mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 5h du matin. Alors, et on a sur toutes les plateformes numériques. On a aussi sur notre site web. Merci à vous et on se retrouve demain. Je vous dis ciao.